150 ans après, feuilleton sonore sur les traces d'Alexandre Dumas. Chapitre 4, Antilles et descendance.
Il paraît que l'esprit d'Alexandre Dumas a pris ses aises à l'Académie française. Pourtant, le joyeux romancier n'a jamais été élu par cette noble assemblée. Peu importe, la vie d'un écrivain ne s'arrête pas après la mort. En 1874, 4 ans seulement après sa disparition, un peu de sa chair et de son sang sont introduits sous la coupole d'une façon très officielle en la personne de son fils. Est-ce une vengeance à retardement ou bien encore un rebondissement dont ce roi de l'intrigue a le secret? En tout cas, Alexandre Dumas a jeté son dévolu sur le fauteuil numéro 2 et il ne le lâche pas. C'est l'un de ses cousins à la mode d'Haïti qui l'occupe aujourd'hui. Bonjour Dany Laferrière.
Bonjour.
Alors, comme vous, les Dumas ont de profondes racines en Haïti. Est-ce que vous faites un peu partie de la famille?
De la famille de Dumas? Non, mais sûrement de la famille de ceux qui ont lu avec tant de bonheur, disons, Alexandre Dumas fils, qu'on n'appelle pas Alexandre Dumas fils en Haïti, parce que, ou plutôt qu'on l'appelle Alexandre Dumas fils, ce que nous appelons en France simplement Alexandre Dumas, puisqu'il est le fils du général. C'est le général qui a occupé une place dans la mémoire haïtienne, puisque c'est un homme, c'est un personnage du roman des Dumas, d'Alexandre Dumas surtout, et il y a beaucoup de panache dans sa vie, et comme nous sortions d'une guerre effroyable coloniale contre l'armée napoléonienne, donc le choix était tout à fait normal et de prendre le général Dumas.
Alors le héros là-bas, c'est d'abord le général.
C'est d'abord le général parce qu'il avait refusé de revenir avec l'armée napoléonienne, comme le lui a demandé Bonaparte, et pour combattre les esclaves, les faire rentrer à nouveau dans les plantations, dans l'esclavage. Il aurait dit à peu près que jamais il ne se mettra contre son peuple, sa famille, étant toujours ému par sa mère, Marie Cécette ou Louise Cécette Dumas.
Et alors justement, est-ce qu'on peut parler de cette femme? Parce que c'est important, les grands-mères, je crois, notamment pour vous. Est-ce que vous pouvez un peu nous évoquer cette femme qui fut la grand-mère d'Alexandre Dumas?
Oh, je ne la connais qu'un peu de loin. Elle était esclave. Et ce qu'on oublie, elle avait eu pour mari un David de la pailleterie, ce qui est assez étonnant quand même, un mariage de ce genre. Mm-mm. Bon, il est vrai, ce David de la pailleterie n'était pas de la bonne paille, si l'on peut dire. Il avait presque fait faillite. Il était mal vu par sa famille, par son frère d'ailleurs, qui l'avait beaucoup aidé d'ailleurs à Saint-Domingue et à qui il a volé et quelques esclaves, 2 ou 3, et pour s'enfuir et trouver un autre nom et vivre dans une autre partie de l'île, la partie occidentale de l'île, dans la région de Jérémie, et d'où naîtra le général et Thomas, je crois, et Dumas, Alexandre. Et donc, c'était quelqu'un d'assez mal vu qui a trouvé quand même une femme extraordinaire et pour nous, de notre point de vue. Et Louise Cécette, Marie-Louise Cécette Dumas, qui est une femme sûrement très, très jolie. On connaît la propension des colons de sortir du lot.
Et l'avait bien choisi.
Il l'avait bien choisi et c'était quelqu'un aussi qui avait un tempérament. Et naturellement, pour arriver à se faire épouser par un demi-noble, si l'on peut dire, c'était pas le gratin total, mais quand même, et de la noblesse française, et il a fallu qu'elle ait beaucoup de caractère. Et pour ne pas s'imposer uniquement par la chair, par le désir, mais quelque chose aussi de l'esprit. Donc cette femme a bien existé dans la mémoire de son père, de son fils, le général Dumas. Et d'une certaine manière, le prolongement a été fait puisque les autres Dumas ont pris le nom de l'esclave, le nom de la femme et du marquis de la pailleterie et non de celui du père.
Ce qui est assez inattendu.
Mais tout est inattendu.
C'est l'esclave, c'est la femme.
dans cette famille. Tout est inattendu dans cette famille de capés d'épée, de panaches, de rebondissements. Et c'est ça qui est intéressant quand on lit l'histoire d'Alexandre Dumas, et c'est de voir à quel point sa vie, la vie ordinaire, est remplie et mérite un roman et très, très Alexandre Dumas.
Et alors justement, en Haïti, Alexandre, l'écrivain, l'auteur des Trois Mousquetaires, quelle place occupe-t-il aujourd'hui ?
Il faut dire qu'Alexandre occupe une place importante dans le monde entier. Mm-hmm. Les Trois Mousquetaires étant le livre français peut-être le plus traduit et dans le monde. Et il convient aussi, naturellement, à notre tempérament de peuple né de la guerre. Et le panache, la dignité, l'irrévérence, et tout ça, ce sont des ingrédients qui ont été importants dans cette prise de conscience nationale qui va déboucher sur l'indépendance d'Haïti. Et naturellement, on pense toujours avec affection qu'il est des nôtres. Il est des nôtres, mais en même temps aussi, il y a d'autres écrivains qui n'ont jamais été en Haïti, ni pensé à Haïti, qui sont des nôtres. Disons Corneille, le Cid, qui est le poème le plus... Enfin, c'est une pièce de théâtre, mais pour nous, c'est un poème parce qu'il y a un élan tellement juvénile et qui ressemble à notre tempérament. Et pour rire, et c'est Molière. Molière est haïtien d'ailleurs, avait déclaré Dantès Bellegarde à une conférence à la Sorbonne ou à Paris. Et quelque part, et Molière est haïtien parce que pour nous, toute sa façon de voir le monde est haïtienne. Mais Dumas est des nôtres. Dumas est du sang et de la chair. Et Dumas, nous sommes les seuls à savoir qu'il est le fils de l'esclave, qu'il est le fils de cette femme magnifique qui n'est pas une esclave pour nous, puisque l'esclave n'existe pas dans la mémoire haïtienne. C'est pour ça qu'on a pu être indépendant. L'esclave est une notion de l'Europe. Et qui donne une impression de pérennité de cette condition, alors que les gens qui devraient se révolter même après 300 ans, ils ont dû garder à l'intérieur d'eux l'idée que l'esclavage n'est qu'un mauvais quart d'heure à passer.
Et vous, du coup, dans votre enfance, vous avez lu Dumas ?
Ah oui, mais quoi ? Qui n'a pas lu Dumas, les Trois Mousquetaires d'abord. J'étais à l'école des frères de l'institution chrétienne et qui vient d'un prêtre, une congrégation fondée par un prêtre de Bretagne. Et donc, pour moi, Dumas reste le roman de la jeunesse, de l'adolescence, et avant même les romans qui sont construits et faits pour les adolescents. Et c'est Dumas, et puis c'est Stevenson. Et je crois que c'est important qu'un adolescent, qu'un tout jeune adolescent, à la sortie de l'enfance, puisse lire, débuter avec des livres universels qui ne sont pas faits uniquement pour l'adolescence, mais qui veulent que l'adolescence soit un état d'esprit, et l'esprit de se mettre face au pouvoir. D'ailleurs, je l'avais dit dans mon discours de l'Académie française que c'est dommage. Quand j'étais adolescent, j'étais du côté de Dumas. Et puis, aujourd'hui, étant à l'Académie, je passe du côté du cardinal.
De Richelieu. Vous avez changé de camp.
J'ai changé de camp, oui. Mais je reste quand même. Je garde, même si je suis dans la maison du cardinal, je garde quand même l'esprit. Et bravache l'esprit de panache et des Trois Mousquetaires.
Et est-ce que vous avez un lien particulier avec Dumas fils, l'auteur de La Dame aux Camélias, qui occupait votre siège ?
Non, j'ai pas. C'est vraiment le général Dumas parce qu'il a eu un contact avec Haïti. Et un contact très fort, il a été très, très touché par ce pays, il a gardé des liens. Et puis Alexandre Dumas, qui est l'auteur des Trois Mousquetaires. Quant au Dumas qui est sur le fauteuil numéro 2, je crois que c'était parce qu'on n'a pas pu se résigner d'avoir perdu le vieux Dumas, qui était un communard. Quoi, peut-être là se trouve la question de son rejet. de l'Académie. Je ne dis pas, hein, je n'ai aucune information précise pour cela, mais le vieux Dumas était beaucoup plus subversif que son fils. Mais La Dame aux Camélias est une œuvre magnifique. D'ailleurs, même le père en était pas jaloux, mais quand même, il admirait cette œuvre.
Alors, pour revenir à Dumas père, est-ce que, en vieillissant, d'autres thématiques vous ont parlé dans son œuvre? Je pense peut-être au thème de l'arrachement, de l'exil, quand on lit par exemple le Comte de Monte Cristo.
Oh, le Comte de Monte Cristo, ces deux œuvres, Les Trois Mousquetaires et le Comte de Monte Cristo, me font penser aux Parrains 1 et 2 de Francis Ford Coppola. Le premier est d'une clarté extraordinaire, d'une luminosité, Les Trois Mousquetaires et le premier Parrain, c'est très lumineux, il y a quelque chose toujours à manger là-dedans, comme dans le Comte de Monte Cristo, il y a toujours une auberge où trouver à se reposer et du foin pour les chevaux, il y a quelque chose d'extrêmement physique et pratique et dans cela. Et le second Parrain, ou le deuxième Parrain, plutôt il y en a trois, et c'est plus sombre, c'est plus terrible, mais c'est plus humain aussi quelque part. Et le thème de la vengeance, hein, qui est dans le Comte de Monte Cristo ne fait pas partie de mon ADN, mais j'admire la puissance de l'œuvre et j'admire le fait que ce thème se retrouve aussi dans les fibres humaines. Et que Alexandre Dumas, qui avait d'ailleurs un très grand sens du choix des thèmes, et disait à propos de Victor Hugo, si je pouvais en même temps, pour mon théâtre, écrire des vers aussi beaux, je serais le plus grand, le phénix de ces bois. Mais je ne pense pas qu'il en avait besoin.
Les vers, ce n'était pas son affaire quelque part.
Non, ce n'était pas son affaire, mais il n'en avait pas besoin non plus. Parce que toute sa force se retrouve dans cette candeur, dans cette force qui s'impose, une sorte de présence incontournable, physique, de chair. Et c'est ça que j'ai aimé dans Alexandre Dumas. Je ne l'aurais pas bien vu en faisant ce qu'il ne sait pas faire. Il n'a pas cherché à le faire, il s'est contenté de se plaindre qu'il ne pouvait pas le faire. Mais quel écrivain ne s'est pas réservé le talent personnel pour faire quelque chose tout en rêvant à un autre talent qui lui aurait permis de transposer son œuvre à un plus haut niveau?
Et comment est-ce que vous décririez son style, sa plume, sa patte? Qu'est-ce qui fait que vous lisez, vous dites, ah, ça, c'est du Dumas.
Oh, on a demandé ça à Maupassant, qui était un de ses amis. Et Monsieur Dumas, votre ami, c'est un peu direct, c'est coloré, c'est vivant, peut-être trop vivant. C'était pas dans les mœurs de la littérature française à l'époque, cette façon de poser les couleurs primaires et brutales comme ça, l'une à côté de l'autre. Et moi, je dirais que c'est haïtien. Il y a quelque chose d'haïtien, de la peinture primitive, de ces couleurs primaires qui sont toujours à poser et à coller l'un à côté de l'autre, sans donner l'impression de vouloir créer quelque chose, un classicisme européen, une sorte de perspective de fond où le point de fuite serait placé dans un paysage où l'on nous inviterait à venir faire une visite. Dumas fait comme les peintres primitifs, il place le point de fuite dans le plexus de celui qui le lit. C'est-à-dire qu'il fait entrer son appareillage, son théâtre, ses foules, ses chevaux rapides, et cette gaieté soudaine, cette amitié en quatre ou en trois, selon comme on le voit. Et il fait entrer tout ça dans le corps de celui qui lit, qui ne peut plus prendre de distance et qui se trouve comme, disons, asphyxié. Je dirais peut-être mieux, il est comme absorbé par tant de présence, de chaleur, qu'il s'enfonce de plus en plus sous les draps et finit par lire le livre avec une lampe de poche.
Jusqu'au bout de la nuit.
Oui, jusqu'au bout de la nuit, et en même temps aussi dans une solitude totale, une solitude qui lui permet de visiter l'époque de Dumas et de se retrouver, on espère, et sur la croupe d'un des chevaux des mousquetaires.
Alors, j'ai lu une autre citation de Maupassant à propos de Dumas, et vous me direz ce qu'elle vous inspire. Il parlait de ce volcan en éruption de livres qui se nommait Dumas. Et quand on vient d'Haïti, parler de volcan, c'est intéressant.
Oui, c'est tout à fait intéressant. L'histoire haïtienne est un volcan et qui a explosé et continue de l'être. Mais comme le colon n'est plus là, c'est nous qui en prenons dans la gueule, pour parler vraiment de manière châtiée. Et oui, bien sûr, il y a quelque chose d'irrésistible et en même temps d'irréfutable chez Dumas qui impressionne d'ailleurs le nombre de livres qu'il a écrits, et même s'il était accompagné d'un nègre. Et c'est un mot qu'on ne veut plus dire, mais qui a tout son sens, qui est très beau pour une fois que le mot veut dire quelqu'un qui écrit vraiment. qui écrit vraiment. Mais dans le cas, je ne crois pas du tout à cette idée que Dumas n'était pas l'auteur de ses œuvres. Il est totalement l'auteur de son œuvre. Les peintres faisaient ça, Michel-Ange faisait ça. On n'a pas dit ça de Michel-Ange. Les petites mains, on a toujours pour faire les travaux de base. Et au cinéma, la même chose aussi. L'assistant réalisateur fait les scènes. Et quand le réalisateur n'a pas de temps, on doit penser à autre chose. Et ce qui compte, c'est la trame et le style. Donc, il avait les deux. Et je pense que ça a impressionné Maupassant, qui lui-même aimait bien les pièces de viande saignante.
Et aujourd'hui, on considère de plus en plus Alexandre Dumas comme un écrivain métis, est-ce que c'est justice d'une certaine façon de reconnaître ce qu'il est, ou bien finalement, peu importe, vous, je sais que vous refusez un peu d'être enfermé dans cette image d'écrivain noir. Qu'est-ce que vous en pensez pour Dumas ?
Je suis pour et contre. Pour, parce que c'est l'histoire, dans le sens que ce serait intéressant de savoir cette chose qui a touché Dumas lui-même, et c'est d'ailleurs le nom, et que tous les lecteurs à l'étranger, ça ne veut rien dire, le nom Dumas, c'est-à-dire ils lisent les Trois Mousquetaires. Mais que les Français sachent quand même que c'est le nom de l'esclave et que le général Dumas a tenu à porter le nom de sa mère et que le nom le plus accueilli et le plus chaleureusement dans la littérature française, et c'est avec révérence, c'est peut-être Flaubert, mais avec chaleur, c'est Hugo, c'est Dumas. C'est Dumas, littéralement. Dumas est un frère. Dumas n'est pas un père. Dumas est un frère. Et on est vraiment l'un à côté de l'autre, sinon sur la croupe de son cheval. Et quand on traverse les routes de France, de savoir que sa mère est une ancienne esclave, je trouve que c'est une information extrêmement importante et pour des gens comme les Français qui accordent beaucoup d'importance à l'histoire littéraire aussi, autant qu'à la littérature elle-même. C'est dommage et qu'il n'ait pas su cela. Et sinon, ils auraient été chercher plus souvent des écrivains de ce côté du monde, parce qu'on a encore d'autres Dumas.
Vous avez des noms en tête ?
Je ne suis pas de ceux qui balancent. Mais si on cherche,
gardez
on trouve.
Gardez votre mystère. Alors, nous fêtons les 150 ans de la disparition d'Alexandre Dumas. Est-ce que vous pensez qu'on le lira encore dans 150 ans ?
D'abord, il n'a pas disparu. Il est plus présent que jamais. Il n'y a pas si longtemps, il est rentré la tête haute au Panthéon. Mmh. Et donc, Dumas est très vivant. Il est encore très lu et surtout très joué. Et un peu partout, les Japonais l'adorent, et les Américains ne connaissent que lui, et parmi les Français, je pense que Les Trois Mousquetaires est plus connu que Les Misérables, qui sont une œuvre immense aussi, et ou Madame de Bovary, qui sont tout aussi importantes. Mais il y a cette chaleur de l'ami et dans l'œuvre, qui est une œuvre sur l'amitié elle-même d'ailleurs. Et la plupart des œuvres, même le Comte de Monte Cristo, c'est l'idée du partage entre ceux qui nous ont trahis et ceux qui sont restés fidèles. C'est toujours cette jeunesse. Et qu'on retrouve simplement que chez Corneille et dans le Cid, cette jeunesse qui triomphe et qui triomphera toujours. Tant qu'on voudra avoir quelques amis, et comme dirait notre ami Brassens, et tant qu'on... les copains d'abord, et on aurait pu appeler les Trois Mousquetaires les copains d'abord.
Eh bien, merci Dany Laferrière. C'est ainsi que nous finissons notre série sur Alexandre Dumas. Un grand merci, chers auditeurs, pour votre fidélité. Et nous gardons en tête cette jeunesse et ce sens de l'amitié d'Alexandre Dumas. À bientôt.